exposition permet de rappeler les millions de petites histoires qui composent la grande histoire. Peu de gens, y compris au sein du monde juif, savent qu'en 2021, il existe, en dehors d'Israël, un autre État juif sur la planète. Il s'agit de la République autonome juive ou Oblast, la région du Birobidjan, qui est l'une des 85 entités constituant la Fédération de Russie. Nous irons en Arménie, où le mémorial de la Shoah « Vivre et ne pas oublier » dans la ville arménienne d'Erevan a été profané avec de la peinture pulvérisée sur tous les écrits en hébreu. Nous irons dans le sud de l'Espagne et nous allons honorer la mémoire de 400 juifs qui ont été massacrés en 1391. Autre massacre, et ça s'est passé à Strasbourg, on l'appelle le massacre de la Saint-Valentin, car c'était le 14 février 1349, 2000 juifs ont été brûlés. Le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, en désaccord avec l'administration Biden, je vous parlerai aussi de Napoléon, l'empereur des Français, qui durant sa campagne d'Égypte a fait une déclaration éloquente reconnaissant la propriété de la Terre Sainte, la Palestine, au peuple juif. Israël a été classé à la 7e place des pays les plus innovants du monde pour cette année, selon le Bloomberg Innovation Index publié la semaine dernière. Maskit, ou une histoire de la mode à l'israélienne. Maskit est une marque qui a été créée en 1954 par Ruth Dayan, qui était alors l'épouse de Moshe Dayan. Et sachez également que le Danemark et le Brésil sont intéressés par l'aide d'Israël. Mais on va démarrer cette émission avec Nourit Galron.
ביום הכי קר בשנה ובעיניי שלי טפטוף מקומי כי יש סדק בלב אהבה כשהלכת מכאן לא ידעת לאן מסגרת פניי בחלון אבל גם בתמונות לפעמים הדמויות מקשיבות לטקטוק השעון ואולי אתה פה חסר לי אתה כאן, אתה שם ובכל זאת אתה פה חסר לי ואולי אתה פה חסר לי חשבת אותי שאבוא ורוץ עד אליך וכלום לא קרה כשאתה לא בסביבה כן הכל די רגיל בלעדיך הייתי בכיף מחבקת אותך מחכה לך בין הסדינים אני שונאת אנשים אנשים חלשים שבמקום לדבר הם זזים ואולי אתה פה חסר לי אתה כאן, אתה שם ובכל זאת אתה פה חסר לי
Atapo à Serli, Nourit Galron. Direction Paris, à présent, à l'occasion du 27 janvier, la journée internationale de commémoration à la mémoire des victimes de la Shoah, qui marque le 76e anniversaire de la libération du camp d'extermination et de concentration d'Auschwitz-Birkenau par l'armée rouge. Le siège de l'UNESCO à Paris a accueilli l'exposition Lest We Forget du photographe germano-italien Luigi Toscano. L'exposition qui représente le plus vaste accrochage au monde de portraits documentant les histoires de survivants de la Shoah et d'autres crimes nazis se composait de 200 photos qui ont été affichées dans les espaces publics du bâtiment de l'UNESCO ainsi que sur les grilles extérieures. Les photos ont été exposées du 18 janvier au 12 février. L'exposition a été créée grâce au soutien de l'UNESCO, des délégations permanentes d'Autriche, de France, d'Allemagne et de l'Union européenne auprès de l'UNESCO, du Conseil représentatif des institutions juive de France, le CRIF, du Congrès juif mondial, de l'EUNIC et du Forum culturel autrichien à Paris. En raison des restrictions liées au Covid-19, l'expo a été inaugurée virtuellement le lundi 25 janvier via un événement en ligne rythmé par les prises de parole de la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, de la ministre fédérale autrichienne de l'Union européenne et de la Constitution, Madame Caroline Edstadler, du ministre fédéral allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, et du président du Congrès juif mondial, Monsieur Ronald Lauder, aux côtés de l'artiste donc Luigi Toscano. Le dimanche 17 janvier, le CRIF a donc accompagné les 4 survivants français photographiés pour cette exposition, à savoir Madame Rachel Jedinak, Ginette Kolinka, Yvette Lévy et Monsieur Elie Bouzin, afin qu'ils découvrent leurs photos et l'émotion était bien au rendez-vous. Parmi les portraits représentés figurait aussi celui d'Evelyn Askolovitch, photographié en 2018 par Luigi Toscano à l'occasion de l'exposition berlinoise cette fois. Pour son projet, l'artiste Luigi Toscano a donc rencontré et photographié des survivants de la persécution nazie depuis 2014. Il a déjà rencontré plus de 400 survivants en Allemagne, aux États-Unis, en Autriche, en Ukraine, en Russie, en Israël, aux Pays-Bas, en France et en Biélorussie. L'artiste expose les portraits grand format de survivants dans des lieux centraux accessibles à tous, parc public, place publique ou façade de maison. En tant que tel, les portraits et les survivants trouvent un accès direct à la vie quotidienne des passants, indépendamment de leur origine, de leur âge ou de leur milieu professionnel. Il faut savoir que plus d'un million de visiteurs ont déjà vu l'exposition, notamment à Berlin, Kiev, New York, Washington DC et Vienne. Lest We Forget donne un visage humain et émotionnel à la mémoire des atrocités de la Shoah et lutte contre toute forme d'exclusion, se positionnant en faveur de la tolérance, de la démocratie et des droits de l'homme. Depuis le début du projet, donc en 2014, la lutte contre l'oubli est devenue encore plus urgente. 76 ans après la libération des camps de concentration, les crimes commis sous le régime nazi ne peuvent être oubliés. Et selon une étude récente de la Commission européenne, les Juifs d'Europe ont à nouveau peur de pratiquer leur foi et près de 40% d'entre eux envisagent même de quitter l'Europe, alors qu'un Européen sur trois affirme ne connaître que peu l'histoire de la Shoah. Un Européen sur 20 n'en a même jamais entendu parler. Autre chose maintenant, Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran et leader de l'opposition iranienne en exil, a accordé une interview exclusive au journal Israel Hayom. Sur les intentions affichées de la nouvelle administration américaine à l'égard de l'Iran, il est tout à fait catégorique. L'administration Biden a une approche erronée de la question iranienne. Ils veulent revenir à l'accord alors que l'Iran, l'ennemi juré des États-Unis, s'est empressé de multiplier par 5 la quantité d'uranium enrichi. Reza Pahlavi accuse encore l'Iran de se livrer à du chantage, sachant que Joe Biden veut revenir à l'accord et indique que pour lui, la seule solution pour l'Occident ainsi que des pays arabes limitrophes est de soutenir la lutte de l'opposition iranienne pour un changement de régime. Le fils du Shah n'épargne pas non plus ses critiques envers les pays occidentaux qui, selon lui, font fausse route depuis 40 ans en s'imaginant que les Iraniens changeront d'attitude si ces pays adoptent une politique d'apaisement et de conciliation. Cela n'arrivera pas. Le régime iranien n'est pas mu par les intérêts nationaux, mais par des intérêts corrompus et criminels. C'est pour cela que dans mes entretiens avec des dirigeants internationaux, je tente de les convaincre que la seule solution est de soutenir le peuple iranien. Reza Pahlavi a également exprimé son soutien aux accords d'Abraham, qu'il a qualifié d'alliance pour le progrès, par contraste avec l'axe du mal constitué par l'Iran, l'Irak, le Yémen, la Syrie et le Liban. Ces pays signataires des accords d'Abraham ont gagné des liens sociaux, culturels, éducatifs, économiques et sanitaires, mais ce ne sera pas complet tant que l'Iran n'aura pas été libéré de son opposition à cette alliance. Enfin, l'héritier du Shah d'Iran se dit prêt à se rendre en Israël si l'invitation lui est faite, notamment pour rencontrer la communauté originaire d'Iran qui est fière de son patrimoine et de sa culture. Il a également estimé qu'Israël, en temps normal, pourrait beaucoup aider l'Iran dans les domaines de la high-tech et de l'environnement. Les connaissances israéliennes dans les questions de l'eau pourraient grandement aider mon pays qui, comme Israël, connaît des problèmes à ce niveau, a-t-il donc conclu.
מאז שעזבת הרבה השתנה כאן זהו זמן שיגעון מהומה עד אין קץ ובכל רגע חדש פורענות לא עלינו והכל חי ברשת הכל התפוצץ ובאופק אחר על אותו דף גמרא יושבים כל הלילה אתה ואני שלוות עולמים פרדס חנה כרכור אקליפטוס ברוח שורק בלוז כנעני שעזבת החושך גובר כאן האור שלך מאיר עדיין זוהר זה סיבוב הופעות מקומי אתה יודע אותו שיר כאב הולך וחוזר ובאופק אחר סביב שולחן השבת יושבים כולם יחד גם אתה ואני שלוות עולמים פרדס חנה כרכור אקליפטוס בודד שורק בלוז כנעני שעזבת הרבה השתנה כאן זה עולם אלקטרוני קצת קשה לדבר ומילים כמו שלך אף אחד לא אומר כבר הנר שלך מאיר עדיין בוער ובאופק אחר אחרי הופעה נעביר בסיבוב זר קוצים רחני שלוות עולמי פרדס חנה כרכור אקליפטוס ענק שורק בלוז כנעני שעזבת הרבה השתנה כאן הנר שלך מאיר עדיין בוער
blues Knaani avec Ehud Banaï. Direction l'Arménie à présent, où le mémorial de la Shoah, vivre et ne pas oublier dans la ville arménienne d'Erevan, la capitale, a été profanée avec de la peinture pulvérisée sur tous les écrits hébraïques. Le mémorial a été construit pour honorer à la fois la Shoah et les victimes du génocide arménien et se compose de deux piliers principaux avec vivre et ne pas oublier à la mémoire des victimes des génocides des peuples arméniens et juifs, écrit en arménien sur le pilier droit et hébreu sur le pilier gauche. Le porte-parole du maire d'Erevan a fermement condamné la profanation, notant que de tels incidents doivent être écartés à Erevan, où des représentants de diverses nations vivent côte à côte comme habitants d'Erevan, la capitale. La profanation de tout mémorial est extrêmement inacceptable. En outre, le type de mémoriaux qui sont liés aux minorités vivant dans la ville. Je pense que ce problème devrait être résolu grâce à la coopération avec les forces de l'ordre, a déclaré donc le maire d'Erevan, interrogé sur les actions visant à exclure des incidents similaires à l'avenir, étant donné que c'est déjà la deuxième fois que ce mémorial est ciblé par des vandales ces derniers mois. Quant au vice-président du Parlement, M. Alain Simonian, le bloc au pouvoir Maestep a fermement condamné la profanation du mémorial de la Shoah et du génocide arménien dans le centre d'Erevan. C'est ce qu'a donc rapporté le site internet de la presse arménienne. Cette manifestation de vandalisme n'est rien d'autre qu'un crime contre les valeurs universelles et elle doit faire l'objet d'une enquête appropriée et ceux qui ont commis ce crime devraient être tenus de rendre des comptes afin d'écarter et d'empêcher, bien sûr, que de tels incidents se reproduisent à l'avenir. Fin de citation. Et vous aurez peut-être reconnu Bublitschki avec le fameux clarinettiste Gyora Feinman. Enfin, on y arrive au Birobidjan, l'autre État juif. Et peu de gens, y compris au sein du monde juif, savent qu'en 2021, il existe en dehors d'Israël un autre État juif sur la planète. Mais oui, il s'agit de la République autonome juive ou Oblast, la région du Birobidjan, qui est l'une des 85 entités constituant la Fédération de Russie. Mais ce qui distingue aujourd'hui fondamentalement Israël du Birobidjan, c'est que l'État juif du Moyen-Orient, où est désormais rassemblée la plus grande partie des Juifs du monde, soit quelque 7 millions d'âmes sur 8,5 millions d'habitants, est vraiment un État juif, alors que le Birobidjan, où depuis sa création en 1928, la population juive n'a jamais été majoritaire, voire le nombre d'habitants juifs diminué drastiquement et tendre inéluctablement vers la disparition. Rappel des faits, le 28 mars 1928, le présidium du comité central exécutif de l'URSS vient de s'achever et sa décision est prise 11 ans seulement après la proclamation de la déclaration Balfour par le gouvernement de Grande-Bretagne envisageant la création d'un État juif en Palestine, un pays juif à voir le jour, où ça, eh bien en Extrême-Orient soviétique. Après d'âpres discussions et de nombreuses controverses, le procès-verbal numéro 45 décide que l'avenir du peuple juif ne se jouera pas au Proche-Orient, mais bien à la frontière de la Chine, dans une contrée sauvage et presque inhabitée que certains appellent le Bidjano-Birsk et d'autres le Birsko-Bidjan et qui finira par devenir le Birobidjan. La création d'un État juif au sein de l'Union soviétique venait récompenser certains dirigeants juifs de la Yevetskaya, la section communiste juive. Parmi eux, Simon Dimenstein, qui proclamait dès 1918, « Nous devons créer des communautés juives et former des travailleurs agricoles juifs. Nous devons créer une Palestine à Moscou. » Fin de citation. Le fameux procès-verbal numéro 45 aurait pu rester lettre morte, mais les tenants d'un État juif trouvèrent un appui inattendu, un supporter fervent de leurs idées, en la personne du président de l'URSS, le camarade Mikhaïl Kalinin, qui se révéla être un ami des Juifs. Le message qu'il leur adressa alors, message répété à l'occasion de plusieurs discours, pouvait se résumer en ces termes. Faites votre alia au Birobidjan. Vous préserverez ainsi votre judéité, votre identité sioniste. Saisissez votre chance. D'autres projets d'installation des Juifs dans l'agriculture avaient germé dans l'esprit des technocrates russes et des embryons de foyers national juifs existaient en Ukraine, en Crimée, en Lituanie, en Volhynie, en Bessarabie, au Caucase, au Daghestan et même en Ouzbékistan et en Sibérie. Mais le pouvoir soviétique jeta son dévolu sur le Birobidjan. Ce sera bien le Birobidjan. Sur la rive nord du fleuve Amour, qui le longe sur 646 km face à la Mandchourie, limitée à l'est par les montagnes du Khingan et au nord par les monts Bouraï, grands comme la Belgique, le futur État juif était loin de ressembler à la terre promise de la Bible. Mais nombreux, toutefois, furent les Juifs considérés par le 10e congrès du Parti communiste de l'URSS comme une minorité nationale n'ayant pas de territoire en Union soviétique à répondre à l'appel de ce sionisme intérieur. La décision du 28 mars 1928 avait été précédée d'une expédition scientifique qui mit un mois à faire le trajet depuis Moscou, resta sur place près de 2 mois, explora 1 million d'hectares et parvint à la conclusion que nonobstant le climat très rigoureux, une topographie ingrate et la présence d'une population de 27 000 personnes cosaques, ukrainiens, biélorusses, coréens, chinois, yakoutes et tungous, le territoire avec ses 36 000 km² était idéal pour le futur État juif. Ses richesses naturelles, taïga, or, cuivre, fer, mercure, charbon, graphite, marbre et autres pierres précieuses compensaient largement ses inconvénients. Les conclusions positives de l'expédition enthousiasmèrent le journal juif de Moscou, Der MS La Vérité, qui titra dans sa livraison du 22 janvier 1928 « Vers un pays juif », tandis qu'au même moment à Minsk, Abraham Meredjin, un dirigeant juif local, s'écria avec des accents herzliens au 2e congrès des paysans juifs de Biélorussie, « Si seulement vous le voulez, cela deviendra réalité. Bonjour Théodore Herzl. » On aurait pu penser que les tenants d'un rétablissement d'un État juif en terre d'Israël verraient d'un mauvais œil cette concurrence, mais il n'en fut rien. Collaborateur et biographe de Théodore Herzl, Reuven Brenvin écrivit « En tant que sioniste resté fidèle à mes idéaux, je ne vois nul conflit, nulle contradiction entre le sionisme authentique et pur et le birobidjanisme. L'existence de deux républiques socialistes, l'une en Eretz Israël, l'autre en Sibérie, ne peut qu'être profitable au judaïsme. La création de la République juive au Birobidjan n'exige pas de sacrifices ni d'efforts financiers de la part des juifs qui souffrent de la misère dans les pays où ils sont persécutés. Il est cependant regrettable que la jeunesse juive soviétique ne semble pas pressée d'y aller car toutes les possibilités dans les domaines les plus divers lui sont offertes. Mais étant donné que le gouvernement de l'Union soviétique est fermement décidé à établir une République juive au Birobidjan, une possibilité s'ouvre aux juifs de l'étranger, des pays où ils sont persécutés, à savoir venir s'installer au Birobidjan. Et les juifs de tous côtés partirent pour le Birobidjan. En avril 1928, un premier groupe quitta Kazan au Tatarstan et après 10 000 km de chemin de fer et 4 semaines d'un voyage tout à fait éreintant, ils atteignirent une petite station du Transsibérien. Ici et là, d'autres groupes se décidèrent à franchir le pas et des cérémonies officielles accompagnaient les partants, flonflons et discours, drapeaux rouges et embrassades. Les 650 premiers volontaires durent rapidement se rendre à l'évidence. Rien n'avait été prévu pour leur installation, cher ami. Il fallut partir de zéro dans l'improvisation la plus totale sur fond de découragement. Certains rebroussèrent immédiatement chemin et les plus déterminés ou les plus fous, allez savoir, restèrent. Alors, en 1930, le Birobidjan comptait 3000 juifs. C'est alors qu'on décida d'ouvrir le pays aux juifs étrangers. Malgré la dureté des conditions de vie et le nombre important de yordim de la population juive s'accroît, 4000 âmes en 1931, 7000 en 1932. Le 20 novembre 1934, le yiddish est décrété langue officielle, deux autres langues étant autorisées, le russe et, allez savoir pourquoi, le coréen. On se met à rêver d'une république juive que les autorités centrales promettent d'instaurer dès qu'on atteindra une population juive d'une centaine de milliers de personnes. Et dans un poème écrit en 1936, Peretz Markish s'exclame « Un peuple vient vers toi, Taïga, pour devenir jeune ». Le théâtre juif lui est inauguré en 1934, puis c'est la bibliothèque des écoles et le journal local Birobidjaner Stern, l'étoile du Birobidjan. À la fin de 1934, les juifs, qui sont désormais 14 000 tout de même, représentent 15% de la population locale. En 1936, ils sont 16 000 et 19 000 en 1937. Ainsi, 10 ans avant la naissance de l'État d'Israël existait déjà, et à des milliers de kilomètres de là, un État juif en puissance. C'était hélas compté sans la folie des hommes, ou plutôt d'un homme, Staline. Le dictateur, obsédé par des complots qui le viseraient, organise des purges à travers tout le pays, qui sont autant de vagues de terreur, de crimes et de sang. C'est le temps des tristement célèbres procès de Moscou. Accusé d'être un repère d'anciens bundistes et autres socialistes judéo-comploteurs, le Birobidjan est touché de plein fouet. Les pionniers et les dirigeants juifs du Birobidjan disparaissent ou tombent sous les balles. C'est donc le cas de Simon Dimenstein et de Moshe Litvakov. Toutes les structures communautaires sont dissoutes, écoles, centres culturels et journaux juifs ferment leurs portes. On assiste alors carrément à une déyiddishisation forcenée de la région. Une chape de plomb s'abat sur l'État juif. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, le yiddish réapparaît mais le cœur n'y est plus. Au recensement du 15 janvier 1959, le Birobidjan compte 162 856 habitants, dont 14 269 sont juifs, soit 8,8% de la population. Étrangers en somme dans leur propre état, les juifs quittent peu à peu le pays, notamment pour Israël. En 1970, ils ne représentent plus que 7% de la population. Et en 1984, on comptait 7000 juifs au Birobidjan. Ils ne sont plus désormais que 4000 et âgés pour la plupart. En 2021, les bâtiments officiels du pays exhibent toujours sur leur fronton leur caractère hébraïque et la langue officielle est toujours le yiddish. Un rabbin Chabad, Eliyahu Reis, tente de maintenir un minimum de religion malgré la multiplication des mariages mixtes. Le gouverneur de la région, Alexander Levinthal, a même fait construire un mikvé, un bain rituel, une première au Birobidjan. Et dans la foulée, lui qui n'est absolument pas religieux, décida de faire sa bar mitzvah. Mais oui, et aussi étonnant que cela puisse paraître, 150 immigrants juifs sont installés il y a quelques années au Birobidjan. Malgré ses nouvelles sympathies, il ne fait aucun doute que le rêve fou de Simon Dimenstein et de ses amis a été assassiné par le dictateur Staline. C'était Sarit Radat. Un petit peu d'histoire à présent, et je voudrais vous rappeler le massacre des Juifs de Séville en 1391 et le massacre dit de la Saint-Valentin à Strasbourg le 14 février 1349 où 2000 Juifs furent brûlés. Le massacre des Juifs de Séville où 400 âmes ont été assassinées lors de ce massacre. La Juderia de Sevilla est en fait un ghetto sévillan dans lequel les Juifs ont vécu depuis la Reconquista sevillana par Ferdinand III de Castille jusqu'à leur exil sous l'édit de Grenade émis par les rois catholiques. Aujourd'hui, cette zone comprend les quartiers de San Bartolomé et de Santa Cruz. Et si nous revenions un peu en arrière, la ville de Séville a été conquise en 1248 par le roi Fernando III de Castille. Les Juifs ont alors commencé à y affluer en grand nombre. Le roi Alfonso X, le fils, lui accorda 4 mosquées à convertir en synagogues qui servent encore de nos jours d'église de Santa Maria la Blanca, Santa Cruz Convento de Madre de Dios et San Bartolomé. Il y a quelques années plus tard, l'assaut des chrétiens sur le barrio, c'était la première agression jamais perpétrée contre un quartier juif dans l'histoire. Ainsi, l'archidiacre Fernando Martinez commença à opposer les chrétiens de ses vies à ses judios, à ses juifs. La rébellion éclata et les masses affluèrent dans le quartier juif où elles détruisirent les magasins et attaquèrent les habitants. La révolte se termina lorsque la police arriva, mais les responsables restèrent tout bonnement impunis. En raison de cette impunité, le 6 juin 1391, la foule pénétra à nouveau dans le quartier juif, abattant cette fois plusieurs milliers de juifs, presque tous ceux qui étaient domiciliés à ces vie en tout cas. Ainsi, le roi infligea à la ville une amende à laquelle il avait dû se tenir pendant toute une décennie et 100 ans plus tard, l'expulsion des Juifs d'Espagne où leur conversion massive et forcée au christianisme est décrétée dans cette partie du sud ibérique. Cette mesure n'a eu aucun écho car en raison du carnage de 1391 et de l'insécurité qui a suivi, il ne restait que très peu de Juifs dans la ville andalouse de Séville. Alors, plus près de chez nous, le massacre des Juifs de Strasbourg, connu sous le nom de massacre de la Saint-Valentin, témoigne d'une flambée de haine à l'encontre des Juifs soupçonnés d'avoir empoisonné les puits et propagé l'épidémie de la peste. À l'origine de ce massacre, l'apparition d'un fléau horrible, la peste noire, qui s'étant déclarée pour la première fois en Europe au cours de cette année, faisait d'effrayants ravages. Le peuple donnait à la peste une interprétation lourde de menace pour les Juifs. On disait que la peste noire était un châtiment envoyé par le ciel pour punir les princes coupables d'avoir arrêté l'œuvre d'extermination entreprise par Armleder, un boucher à l'origine d'une révolte en 1338. D'autre part, on accusait formellement les Juifs d'avoir provoqué le fléau en empoisonnant tous les points d'eau, sources, fontaines et autres citernes. La populace, dévastée par les ravages du mal, cherchait un bouc émissaire. Les Juifs, les assassins de Jésus, étaient tous désignés pour ce rôle. À Strasbourg, au début de l'année 1349, aucun juif ne se risquait plus dans la rue. Le Stadtmeister de Strasbourg, désireux de protéger ses juifs contre les violences de la populace, ordonna carrément la fermeture du quartier juif. Des nouvelles alarmantes atteignaient les juifs d'Alsace. Des massacres atroces endeuillaient jour après jour des communautés de Suisse, de Rhénanie et de Haute-Alsace. Et du jour au lendemain, la situation des Juifs était devenue intenable à Strasbourg. Les dirigeants firent les plus grands efforts pour détourner le peuple des excès auxquels il paraissait disposé à se porter contre les Juifs, mais cela augmenta l'acharnement contre les Juifs. Alors, dès le 9 février, les députés des corporations demandaient l'arrestation de tous les Juifs et leur mise en jugement. Pierre Schwarber non seulement repoussa cette requête, mais encore il prononça un discours empreint de grave noblesse pour apaiser le peuple déchaîné. Les députés furieux répondirent par des insultes à son discours. Ne le savait-on depuis longtemps vendu aux Juifs ? Pierre Schwarber n'était pas un homme à tolérer les écarts de langage des troublions. Sur le champ, il les fit arrêter tous. Un seul député du groupe parvint à prendre la fuite et son action fut décisive. Sans tarder, il ameuta les corporations qui toutes répondirent à son appel en se réunissant avec la noblesse. Place de la cathédrale, on délibéra sur la conduite à tenir envers les Juifs. Bouchers et tanneurs étaient les adversaires les plus acharnés des Juifs parce qu'ils avaient contracté envers eux des dettes considérables. Ils espéraient liquider en même temps créances et créanciers. Le 10 février, les émeutiers se rendirent maîtres du gouvernement de la Petite République. Ils s'empressèrent de proclamer la déchéance des magistrats qui passaient pour être favorables aux Juifs. Les insurgés nommèrent pour dirigeant le boucher Berskol, connu pour être l'ennemi juré des Juifs. À cette nouvelle, de nombreux Juifs quittèrent Strasbourg à la hâte, cependant que d'autres cherchaient dans la ville même un refuge chez des chrétiens. Le vendredi 13 février, malgré les mises en garde des grands notables locaux, Betschol le boucher, nouveau chef de la corporation des métiers, fait cerner le quartier juif. À Strasbourg, la situation déjà grave parvint à son apogée et le 14 février, jour de la Saint-Valentin, dès l'aube, le peuple de Strasbourg se rue dans le ghetto juif. Une fois à l'intérieur, hommes, femmes, enfants et vieillards furent égorgés sans pitié dans les maisons incendiées, des familles entières disparues. Malgré l'ampleur du massacre, plusieurs milliers de juifs ont survécu. Ils furent tous rassemblés et traînés au cimetière juif. Là s'élevait un grand bûcher auquel on mit le feu. La foule s'acharna avec prédilection sur les petits-enfants juifs. Ils recevaient le baptême avant d'être jetés au bûcher.
Oh, yeah.
Avraham Fried avec Nigun for Shabbos. Sachez qu'Israël a été classé à la 7e place des pays les plus innovants au monde pour cette année 2021 selon le Bloomberg Innovation Index publié la semaine dernière. Israël perd toutefois une place par rapport à 2020 où il était classé 6e et même deux places par rapport à 2019 où il était à la 5e position. C'est la Corée du Sud qui est la première du classement, détrônant cette année l'Allemagne qui est tombée à la 4e position. Singapour et la Suisse ont tous deux gagné une place, se classant respectivement à la 2e et 3e place. La Finlande, les Pays-Bas et l'Autriche se placent après Israël, alors que les États-Unis ne figurent pas dans le top 10 cette année en tout cas. L'agence Bloomberg classe tous les ans les 60 économies les plus innovantes au monde sur la base de 7 critères, dont les dépenses réalisées en recherche et développement en fonction du PIB, l'activité en matière de brevets ou bien encore le nombre d'entreprises spécialisées dans le secteur de pointe. Et puis le Premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahou, s'est entretenu au téléphone avec son homologue danoise, Mme Mette Frederiksen, et avec le président brésilien, Jair Bolsonaro. Ces derniers ont félicité M. Netanyahou pour l'opération de vaccination qui s'effectue en Israël et ont chacun demandé à Israël de pouvoir coopérer dans le domaine de la recherche, de la production et de la commercialisation dans le domaine des médicaments contre le Covid-19 ainsi que sur les vaccins. M. Netanyahou et Mette Frederiksen ont même évoqué ensemble la possibilité de coopération entre Israël et plusieurs pays européens.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים והזמן עובר בלי פחד ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן תתארו לכם קצת אושר כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית ועם לאט השתקפויות של עצם ושמחה תתארו לכם באמצע יום יפה שמיים עליכם אהבה איתכם כן ככה זה קרה לפתע היא אמרה אני עוד זוכר אותה כמו בסערה תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה תתארו לכם עולם פשוט חדר ללילה בית בגשם רחות עצים לאים בטות ושנינו שיקורים אם ניפרד אני אמות היא לוחשת וגועשת תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה מה שחסר שהוא מתמלא מה שהיה פתאום ישנו ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות תתארו לכם באמצע יום יפה שמיים עליכם אהבה איתכם כן ככה זה קרה לפתע היא אמרה אני עוד זוכר אותה כמו בסערת תארו לכם מותי נופל לתוך זרועות תארו לכם עולם יפה פחות עצוב ממשהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים תארו לכם עולם יפה בתוך החושך עולם פשוט תארו לכם קצת אושר
C'était bien sûr Shlomo Artzi. L'histoire d'Israël peut être racontée de différentes manières. On peut choisir de la raconter par le prisme de la mode, comme l'a montré une exposition Fashion Statement qui était en cours au musée d'Israël. Et l'une des actrices majeures de la mode en Israël fut la marque Maskit, pour ceux qui s'en rappellent, créée en 1954 par Ruth Dayan, alors l'épouse de Moshe Dayan. Ruth Dayan, qui passait de village en village pour enseigner aux nouvelles immigrantes l'agriculture, s'est très vite rendu compte que ces femmes savaient coudre et broder. Elles possédaient tout un savoir-faire qui provenait de leur communauté d'origine. Ruth Dayan a même pensé qu'elle pouvait préserver l'artisanat juif des différentes communautés juives rassemblées, yéménites, hongroises, marocaines ou encore bulgares en Israël, tout en donnant du travail à ces femmes et en faisant connaître la mode israélienne à l'international. Elle s'associa donc avec la styliste Fini Leitersdorf et Maskit et créa des pièces iconiques comme le manteau du désert ou des sandales inspirées d'un modèle tout juste retrouvé dans les fouilles de Qumran, près de l'endroit où attendaient depuis des siècles les manuscrits de la Mer Morte. Et ce fut un grand succès. À l'époque, la marque appartenait à l'État d'Israël. Collaboration avec Christian Dior, Yves Saint Laurent et Givenchy, ouverture d'une boutique sur la 5e avenue à New York. Grâce à la vision et à la détermination de Ruth Dayan, Maskit est alors devenue la première et la seule maison de couture en Israël. La crise du textile en Israël aboutit à la fermeture malheureusement de Maskit en 1994, mais 40 ans plus tard. Mais comme souvent dans cette région du monde, la maison connaît une vie nouvelle. En effet, 20 ans après, en 2014, Sharon Tal, une styliste israélienne qui a travaillé avec le fameux Albert Elbaz alors qu'il donnait un second souffle à l'an 20 et avec Alexander McQueen, reprend la marque et lui redonne vie. Toujours de même matière et des broderies, une inspiration locale, des couleurs du désert, des vêtements contemporains fidèles à la tradition de la maison. Pour rappel, Ruth Dayan est née le 6 mars 1917 à Haïfa, sous l'Empire ottoman, est toujours en dialogue avec la styliste Sharon Tal, la mode n'a pas d'âge. Maskit, c'est donc des vêtements de luxe made in Israel, une maison de couture rattachée à l'histoire d'Israël et une belle preuve que rien ne résiste à la détermination des femmes.
ערב של שושנים נצאנע אל הבוסתן מור בסמים ולבונה לרגלך מפתן ערב של שושנים נצאנע אל הבוסתן מור בסמים ולבונה לרגלך מפתן לילה יורד לאט ברוח שושן נושבה ובהר חי שלך שיר בלט זמר של אהבה לילה יורד לאט ברוח שושן נושבה הלך שלך שיר בלט זמר של אהבה שחר הומה יומה ראשך מהלת אל הלים פריך אל הבוקר שושנה הקטה פיינו לי שחר הומה יומה חללים ריחל הבוקר שושנה וכתפינו לי לילה יורד לאט ורוח שושנו שבה אבא הלכה שלך שיר בלד זמר של אהבה לילה יורד לאט ורוח שושנו שבה אבא הלכה שלך שיר בלד זמר של אהבה זמר של אהבה
Et voilà, c'est donc avec Erev Shel Shoshanim et les Doudaïm que se termine cette émission découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous rappelle qu'elle est rediffusée le dimanche de 18 à 19 heures. En ce qui concerne la suite des programmes sur les ondes de Radio Judaïka, vous retrouverez bien sûr l'information en direct d'Israël dans quelques minutes. Quant à moi, je vous retrouverai avec grand plaisir vendredi prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, je vous souhaite Shabbat Shalom et un guide Shabbos.
Découverte, découverte. Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités.
אין משוגעים כמוני אני אסע גם לאלת גם בשלוש בלילה אקח את המפתחות בשקט יצא כמו רוח מהדלת גם הדלת לא תרגיש שנעלמתי שתי דקות אצלך בערך כביש מהיר אני בדרך תחזרי הביתה בואי תחזרי הביתה אליי שמישהו יעצור אותי יחזיר לי את הראש שלי כי כולם ישנים ורק אני לא מוצא דקה של שקט זאת טיפה זאת הולכת נגמרו כל האנשים שבא מטורפות כמוך כשעבור תצעקי ותלטפי בשקט תגידי לי שאת אוהבת אבל שונאת אותי ממש כמו מדינה עוינת שתי דקות חיבוק בדלת את עומדת מבולבלת תיכנס אליי